Chapitre 11. Les affaires de M. Rucquoy n'allaient pas très bien. On le recevait assez péniblement dans les journaux et dans les librairies, qu'il eût encombré de manuscrits inutilisables. Malgré tout, il ne perdait rien de son courage, il restait jeune, naïf du cœur et de l'esprit. Brave homme, il n'avait gardé du beau succès de Gustave que la joie qui le flattait et aussi la pensée consolante que l'influence de son secrétaire l'aiderait désormais en ses propres entreprises. Sa santé également périclitait. Il toussait jour et nuit par quinte terrible qui aggravait son emphysème. Néanmoins, il croyait que, par des soins assidus, intelligents, il parviendrait, aussi aisément qu'à 20 ans, à rétablir l'équilibre de ses forces. Il suçait des pastilles, buvait des tisanes, se couchait à minuit au lieu de se coucher à 4 heures du matin, et il se proposait de terminer ce régime, qu'il supposait aussi sage qu'efficace, par un séjour de plusieurs semaines dans quelques hautes montagnes au gros mois de l'été. Quoique ne sachant encore où se procurer l'argent nécessaire à cette villégiature, il en éprouvait à l'avance autant de bonheur qu'une jeune fille en éprouve à la veille de ses noces. Cet après-midi, afin de prendre l'air selon les prescriptions du médecin, il était allé en promenade du côté du bois, non loin de la porte Champéret. Gustave était donc seul dans la salle à manger, occupé à recopier les manuscrits de son maître, qu'il savait pourtant très inutiles. Le travail, du moins, entretenait chez M. Rucquoy l'espérance qui est la plus grande part des trésors de la vie. Et Gustave, en lui montrant beaucoup d'application, le confirmait, par devoir et par charité, dans sa croyance, très noble, après tout, que ses ouvrages, s'ils n'acquéraient pas à présent une valeur marchande, apporteraient du moins plus tard, au lendemain de sa mort, de la notoriété à son nom, des ressources à sa famille. Pauvre famille! Madame Rucquoy et Jeanne ne voyaient presque plus personne, se privaient presque de tout. Et les difficultés de la vie matérielle ne faisaient que croître chaque jour depuis les épouvantes de l'interminable guerre. Un mois déjà que Gustave était revenu de son Languedoc. Il n'avait pas encore exprimé clairement à Jeanne, ainsi qu'il se l'était promis, l'aveu de son amour. Il restait le provincial timide, embarrassé souvent de sa volonté au milieu de Paris, dont certains usages déconcertaient son éducation. Et puis, par un scrupule de loyauté, il hésitait à offrir à Jeanne sa main trop faible, dépourvue de fortune. Enfin, s'il épousait Jeanne, ne manquerait-elle pas au ménage des vieux Rucquoy, dont elle assurait l'existence par son labeur de petite fourmi économe ? Pour se réconforter en ses résolutions, il songeait à son pays, à sa maison. Là-bas, à Marennes, Papette Rességuier venait de mourir. Il s'était arrangé de telle sorte que, dans sa succession, Rose, sa fille aînée, n'avait absolument que le droit d'hériter du petit bien de sa mère. Mais Rose n'admettrait jamais, même devant la loi, d'être ainsi définitivement dépouillée. Elle accusait, avec une conviction inébranlable, sa sœur Marguerite d'avoir, pour la voler, abusé de la défaillance sénile de son père. Et, tout de suite, elle avait entamé un procès. C'était pour mieux soutenir ses revendications qu'elle restait là-bas, à Marennes, avec sa fille Amélie, essayant d'ameuter les bourgeois, le petit peuple de la ville, contre ces rapaces paysans de Rocasse. Sous le coup de l'adversité, le caractère de Madame Cassagnol s'était étrangement assoupli. Elle était redevenue la fille simple, gentille, des Rességuier, que chacun chérissait pour sa bonne grâce. En province, on a le temps de se rappeler les affronts subis, d'en garder rancune, de s'en nourrir l'imagination. Les vocations fréquentes du passé distraient un peu des ennuis du présent. En outre, les misères du prochain amusent beaucoup, permettent de se consoler de temps à autre de ses propres misères et de s'émouvoir d'un certain pathétique de la vie qui, par intermittence, secoue la morne monotonie des âmes oisives. Aussi, les bourgeois de Marennes, encore plus les braves gens du petit peuple, loin de pardonner à Rose ses prétentions ridicules, la morgue qu'elle affichait depuis son mariage avec un fonctionnaire, qui, après tout, n'était pas un aigle, la laissaient se débrouiller dans sa bataille contre sa sœur Marguerite, qu'une fortune légalement garantie rendait, sinon plus fière, du moins plus courageuse. Ah, comme Rose se repentait, à présent, d'avoir, d'une manière sotte, inexcusable, rompu son intimité avec les Mouraises. Chez eux, qui étaient si estimés de tout le pays, elle aurait sûrement trouvé le moyen de tourner en sa faveur l'opinion publique. Elle essayait bien, par des caresses et des flatteries, de reconquérir leur confiance. En vain, il était trop tard. Les Mourez, de leur côté, auraient certainement consenti à secourir Rose. C'est dans leur maison qu'elle allait chaque soir avec sa fille puiser une énergie nouvelle, des éléments de réconfort. Mais Gustave, que son père tenait au courant des déboires de Madame Castagnole, laissait entendre dans chacune de ses lettres que pour lui, le passé n'était plus qu'un joli rêve. Néanmoins, malgré les résistances de Gustave, Madame Castagnole et sa fille, qui, dans leur désarroi, avaient besoin de croire à la pitié des gens et des choses, espéraient obstinément le fléchir, le ramener à elle par leur démonstration de tendresse, par l'affectation d'une humilité dont elle ne voyait pas le mensonge. Un malheur ne se produisant jamais seul, elle devinait aisément, par une intuition de leur orgueil et de leur cupidité, que les Raillard, une fois qu'ils seraient renseignés, et qui peut-être l'étaient déjà, sur la disposition imprévue de l'héritage de Papette Rességuier, ne tarderaient point à invoquer un prétexte quelconque de se dérober à leurs engagements. Et davantage, elle s'attachait, maladroite dans leur impatience, à renouer avec les Mourez tous les liens d'autrefois, les espérances d'union qui avaient été à Amélie si douces et qu'elle, moins encore que sa mère, n'osait cependant, par pudeur, exprimer d'une façon précise. Gustave, lui, ne doutait pas une seconde de la perfidie des Raillard. Mais rien ne pouvait plus changer dans le cours de sa destinée ni dans l'émoi de son âme. Pourtant, si Gustave considérait que les Parisiennes tourbillonnent parmi trop de relations dans la ville tumultueuse, qu'ils ne peuvent s'attacher que par intérêt à des amis nouveaux, il avait trop sincèrement aimé les Castagnole pour ne pas les plaindre, peut-être les aimer toujours. Dès son retour de Marraine, il était allé porter à M. Castagnole des nouvelles de ses voyageuses. Mais, après la mort de Papette, après les cruelles déceptions de Mme Castagnole, il n'eut pas le courage de remonter rue Toulier, présenter l'hommage de ses condoléances, car il eut peur, cette fois, de ne pas paraître sincère. En cet après-midi, chez les Rucois, pendant que son maître se promenait dans le bois, il travaillait seul dans la salle à manger inondée de lumière. Par intervalles, il s'arrêtait, la plume à la main, et, librement, il s'abandonnait à la mélancolie séduisante de ses souvenirs. Mais la vision de la réalité présente dissipait bientôt le nuage du passé et il ne voyait plus, ainsi que sur le sable d'une source limpide la lueur d'un ciel paisible, que la figure souriante et attentive de Jeanne. Tout à coup, de même que si la ferveur de sa pensée eût attiré la jeune fille, il entendit, en un murmure qui lui fut aussi doux que celui d'un ruisseau sous les haies, glisser le long du couloir obscur. Et sur le seuil de la salle, devant lui, elle se présenta. « Je viens vous demander un service, » dit-elle. « Ah, lequel ?»« Mais vous semblez fatigué. »«
Moi, pas du tout. »«
Préoccupé. Qu'avez-vous ?»«
Rien. »«
Si, voyons. » »«
Des ennuis. »
Je songeais à tant de choses, mon Dieu.
Alors je suis indiscrète.
Non, mademoiselle, pas vous, jamais. Vous vous en doutez bien.
Il se leva lourdement, non sans peine, pliant et repliant par contenance un morceau de papier.
Jeanne l'observait, d'abord surprise, puis avec un frémissement de joie plus vive que son courage. Les yeux de Gustave étaient sur elle, si fixes, si ardents, qu'elle rougit de pudeur en la passion de son âme. Elle ne le regarda plus parce qu'elle avait honte de trahir ainsi, avec trop de naïveté ou de faiblesse, son désir à la fois suppliant et glorieux. Cependant, soumise à ses avances, elle ne s'écartait point. Il l'effleura d'une caresse et lui dit «
Je songeais à vous. »
« À moi ?»
Oui, il faut bien que je vous parle enfin de moi, que je vous demande votre pensée aussi pour agir loyalement, n'est-ce pas ?
Oui.
Si je suis importun, pardonnez-moi.
Il s'interrompit, sans force, étonné d'avoir eu tant d'effusion soudaine. Elle s'émut de son trouble davantage et murmura « Vous ne m'êtes pas importun du tout. J'ai compris depuis longtemps et sans doute que vous connaissez également ma pensée. »
« Permettez-moi de vous dire que je vous aime, Jeanne. » Elle baissa les yeux et tout bas répondit « Je vous aime. Croyez-vous que vos parents consentiront à nous fiancer ?»«
Ils sont si éprouvés par la vie qu'ils n'espèrent pas qu'un pareil bonheur puisse être pour eux. »
« Je vous aime. Nous leur apprendrons nos intentions quand vous le voudrez. »«
Ils vous affectionnent beaucoup. Ils seront fiers de vous avoir. »
Un moment, ils gardèrent le silence. Les mots étaient trop faibles. Jeanne leva vers Gustave son visage savoureux, ses yeux noirs brillants comme des étoiles. Mais du fond du couloir apparut le pas indolent de Madame Rucquoy qui, par extraordinaire, s'alarmait de l'absence prolongée de sa fille. Aussitôt, les deux enfants, comme pris en faute, se séparèrent. Madame Rucquoy grondait doucement.
« Eh bien, Jeanne, as-tu demandé à Monsieur Gustave d'aller chercher ton père ?»«
Oui, maman. »
« S'il restait trop longtemps là-bas, la fraîcheur du bois pourrait lui faire mal. »«
Oui, maman. » »«
Comprenez-vous, Monsieur Gustave, son père est si distrait. »
« Oui, madame, » répondit Gustave, « rassurez-vous, je le ramènerai tout de suite. »
« Merci, mon fils !»
Madame Rucquoy ne croyait pas si bien dire, aujourd'hui, « mon fils !» Gustave, avisant son chapeau et sa canne, partit à la hâte. Jeanne, qui se plaisait à toucher sur la table les papiers qu'il avait touchés, lui adressa dans un sourire la prière de ne pas s'attarder au dehors. La rue, ainsi que d'habitude, était déserte. Excité par une force nouvelle, au milieu des choses qui lui paraissaient plus agréables, il atteignit rapidement les fortifications. Vers Neuilly, à 500 mètres de la porte Champéret, il aperçut, non sans étonnement, la silhouette bizarre de son maître qui était assis sur un banc. Là, sous le vaste ciel, quelques platanes épanouissaient leur feuillage maigre. Parmi des vergers souffreteux, des jardins potagers encombrés de petites cabanes, s'élevaient d'énormes maisons à 5 étages. Monsieur Rucquoy n'était donc pas allé bien loin de chez lui respirer l'air pur. En véritable parisien, superstitieusement attaché au décor de la ville précieuse, il se croyait, en cette bordure de banlieue, à la campagne. Coiffé d'un lourd chapeau melon, vêtu d'un pantalon gris à carreaux, d'une redingote noire à longs pans, il se tenait très sage, les mains aux genoux. Un sourire errait sur ses lèvres minces, dans la broussaille de sa barbe. Il tendait son long nez rose, chaussé du lorgnon, vers la poussière de l'avenue où roulaient avec fracas les autos, les tramways et les charrettes. Observateur passionné de la vie qu'il aimait de tout son être, il s'amusait, avec une curiosité d'enfant et de poète, à regarder passer les femmes que, selon qu'elles étaient ou non élégamment habillées, il trouvait laides ou jolies. À quoi songeait-il depuis 2 heures qu'il s'efforçait, dans son isolement, d'oublier sa maison et sa famille ? Lorsque la voix, pourtant affectueuse de Gustave, retentit à l'improviste dans son silence, il fut saisi d'un tremblement presque douloureux.
« Que me voulez-vous ? » s'écria-t-il.
« Ces dames craignaient que vous ne preniez froid. Elles m'ont prié de vous dire... »«
Je viens. Elles ont raison. »
Docile, les mains aux poches de son pantalon, dégourdissant ses menues jambes de sauterelle, M. Rucquoy suivit son secrétaire. Celui-ci, frissonnant encore de bonheur, eut d'abord la tentation de confesser honnêtement son amour et de dire les promesses de Jeanne à cet homme, de qui dépendait maintenant le meilleur de sa destinée. M. Rucquoy n'était-il pas, en effet, assez original pour avoir à sa façon, contre toute expérience et des choses les plus ordinaires, conçu en faveur de Jeanne un projet d'établissement, peut-être de mariage, qu'il s'imaginait préférable à tous les autres, et même le seul possible? Ou bien n'était-il pas assez égoïste, à son âge, dans sa vanité d'écrivain, à la gloire duquel tous les siens devaient consentir le sacrifice de leur goût, de leur repos, de leurs intérêts, pour exiger que sa fille, ménagère gratuite et laborieuse, demeurât auprès de lui toujours, et il savait, à certaines heures, commander avec une autorité si tyrannique. Au bavardage, aux insinuations de Gustave, qui, d'ailleurs, ne pénétrait pas du tout dans son esprit, il ne répondait que par monosyllabes, avec ennui. Ah, il avait bien d'autres soucis en tête que l'amour et le mariage des deux enfants. Et des soucis pressants, tellement affreux que l'incorrigible optimiste, qu'il restait depuis si longtemps à travers ses misères, manifestait une grande tristesse. À vrai dire, s'il avait quitté cet après-midi son cinquième, c'était moins pour aider à l'amélioration de sa santé que pour distraire, dans le bruit de la ville et dans la lumière de ce qu'il croyait être la campagne, ses appréhensions, trop justifiées, d'un malheur qui menaçait son foyer, sans que d'ailleurs Madame Rucquoy et sa fille en eussent, ainsi qu'à l'ordinaire, un pressentiment. Car ce despote, qui avait l'air pacifique, mais qui n'obéissait guère qu'à son amour-propre et au culte de sa personne, gardait pour lui seul le secret de ses ressources, souvent de ses pensées. Par orgueil plus que par pitié, il avait caché à sa femme et à sa fille que son successeur à la maison d'édition, qui, par contrat, lui servait une rente mensuelle de 800 francs, était à la veille de déposer son bilan. Aussi entrevoyait-il qu'au bout de quelques semaines, son ménage manquerait de l'argent le plus indispensable. Alors, que deviendrait-il? Son successeur ne pouvait, et certes de bonne foi, que lui donner sur le rétablissement de ses affaires des espérances. M. Rucquoy devait, en tout cas, se résoudre à des mesures d'économie immédiates. La première de ces mesures, et la plus pénible, n'était à ce point de signifier congé à son secrétaire, à cet enfant qu'il chérissait de tout son cœur, il le sentait à cette heure de calamité et qu'il avait eu naguère à l'indignité de jalouser. M. Rucquoy n'oubliait pourtant pas que, dans un coin de sa chambre, derrière son liquage, il possédait un trésor rare, une caisse bondée de manuscrits, qu'il avait acheté autrefois à des débutants dans les lettres, devenus la plupart aujourd'hui fameux et quelques-uns illustres. Mais il entendait ne se débarrasser de ce trésor qu'à la dernière extrémité, après avoir épuisé toutes les recherches, tous les éléments d'assistance. Ces ouvrages inédits n'augmenteraient-ils pas de valeur marchande avec le temps? Quelle duperie, quel malheur ce serait de les vendre pour quelques morceaux de pain! En outre, poète lui-même, passionné et têtu, il se flattait d'avoir le privilège de jouir seul, avec une volupté d'avare, d'une richesse certaine que personne n'avait regardée. Et il ne doutait pas, en son optimisme qui soudain éclairait son âme, que le destin cesserait un jour de le tourmenter et qu'il trouverait, parmi ses relations nombreuses, un homme capable de compatir à ses alarmes et de lui accorder un crédit sur son trésor. En marchant, il soupirait de chagrin, d'une sourde colère. Parfois, il s'arrêtait avec une sorte de complaisance pour se livrer à de longues quintes de toux qui lui déchiraient la poitrine. Rue Merlin, devant sa maison, il rompit son mutisme, non sans rudesse. « Gustave, je suis fatigué. Je le vois, hélas. Ne remontez pas chez moi. Pourquoi? Ne revenez pas demain. Qu'y a-t-il donc ? « Excusez-moi de vous parler sur ce ton. J'ai tant de peine de me séparer de vous, ne fût-ce que pour quelques jours. »« Mais quoi? Je ne comprends pas. » Le maître, soupçonnant à l'inquiétude de Gustave, à son air de dépit, qu'il serait susceptible de deviner quelque chose de ses angoisses, voulut, avec un accent de bonhomie qui cependant sonnait faux, le rassurer. « Je ne suis pas en train ces temps-ci. »« Ah ? J'ai des courses à faire dans ce tourbillonnant Paris qui n'est plus aussi facile qu'autrefois. Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, je vous rends votre liberté. » « Non, non, ce n'est pas possible. Je reviendrai. » « Pourquoi faire ? Ne serait-ce que pour m'informer de l'état de votre santé. » « Bon, comme vous voudrez. Au revoir, Gustave. » Il tendait sa main, petite, molle et qui était glacée. Puis, s'engageant d'un saut dans le vestibule de la maison, il laissa sur le trottoir Gustave tout interdit.